Bonsoir. Évaluation de la bancarisation de la paix des fonctionnaires de l'État. Les banques se sont engagées à faciliter cette opération en promettant d'éviter que les fonctionnaires parcourent de longues distances pour aller percevoir leur salaire. Elles demandent au gouvernement de les aider à s'installer à l'intérieur du pays. Quelle évaluation faire de la bancarisation à travers le pays? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 23 mars 2014. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Jean-Louis Kayembe, directeur général de la politique monétaire de la Banque centrale. Il est aussi président du comité de suivi de la paix des fonctionnaires par voie bancaire. Monsieur Kayembe, bonsoir.
Bonsoir.
Modeste Rachidi Kayombo, porte-parole des syndicats indépendants de l'administration publique. Monsieur Kayombo, bonsoir. Et Michel Somoué, analyste économique, ancien directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo. Monsieur Somoué, bonsoir.
Bonsoir, Kelly.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Maître Adrien Ilobakwe depuis Kananga au Kasai Occidental. L'opération de bancarisation a résolu un problème pour en créer d'autres, notamment la léthargie avec laquelle ces salaires sont perçus, sans oublier les tracasseries dont les fonctionnaires sont victimes de la part des agents commis dans différentes banques. Merci de nous suivre à Kananga au Kasai Occidental sur la 93.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Près de 700 000 agents et fonctionnaires de l'État, soit 73% sur l'ensemble du pays, sont aujourd'hui payés par voie bancaire. Le président du comité de suivi de la paix des agents et fonctionnaires de l'État l'a relevé au lancement jeudi dernier à Kinshasa d'un atelier pour évaluer la mise en œuvre de cette réforme. Selon lui, il y a 4 ans, 2500 seulement étaient payés par la banque. Malgré cette avancée dans la bancarisation, les participants à cette évaluation reconnaissent qu'il y a encore des défis à relever. Agathe Mpona pour les détails.
Michel Bongongo, ministre du budget, parle notamment de la lenteur dans la transmission des listings, de l'envoi tardif des rapports de paye par les banques commerciales, de la faible couverture de ces banques dans les zones à accès difficile et le recours dans ces zones des services non bancaires comme Caritas. Il faudra donc à la fin de la rencontre de ce jeudi que les participants aboutissent à une série de mesures concrètes pour améliorer la mise en œuvre de la réforme. Des mesures notamment pour que chaque agent de l'État reçoive sa prime et son salaire dans une seule et même banque. Toutefois, les différents intervenants à cet atelier ont reconnu à cette réforme le mérite d'avoir permis entre autres de maîtriser les effectifs des fonctionnaires et la masse salariale, d'assainir le fichier de la paye, d'éviter les accumulations des arriérés de salaire et d'améliorer la qualité des billets de banque utilisés pour payer les fonctionnaires.
Merci Agathe. Dans cette opération de bancarisation de la paie des fonctionnaires, l'État congolais travaille avec les réseaux catholiques Caritas Congo. Cette structure a commencé la paie des fonctionnaires, spécialement des enseignants depuis 2011. Le coordonnateur fiduciaire chargé de la paie des enseignants à Caritas Congo affirme qu'à ce jour, 153 000 enseignants sont bénéficiaires de leur salaire en intégralité selon que l'État met à leur disposition les fonds. Cléophas Nzengou de Caritas Congo parle aussi des difficultés rencontrées au téléphone de Berilou Tchaka.
Les difficultés proviennent essentiellement du fait que l'État congolais ne nous donne pas les fonds de salaire et les fonds qui puissent nous permettre de nous déployer à l'intérieur du pays concomitamment. On vous donne les salaires aujourd'hui, vous devez attendre autant de jours, autant de semaines avant de recevoir les frais qui vous permettent de vous déplacer à l'intérieur. Vous savez, ce pays est aussi grand que toute l'Europe continentale. Nous sommes sur ce dossier depuis 2011, avant qu'on parle de la bancarisation. Nous faisons ce qu'on appelle la paie de proximité. Ce qui fait que les enseignants ne se déplacent pas sur de longues distances, vidant les salles de classe, perturbant les horaires de cours pour aller recevoir leur argent. Nous allons vers eux. Deuxième élément, c'est que nous payons les enseignants l'intégralité de leur salaire, sans aucune ponction. Et dans la mesure où l'État nous donne la paye régulièrement, nous avons habitué nos enseignants à toucher leur paye à des dates fixes. À la date de maintenant, nous avons 153 000 enseignants, toutes les confessions confondues. C'est un acquis que nous avions demandé de le faire parce que nous avions vu par le passé qu'il y a des enseignants qui étaient payés par nous. C'était très rapide. Il y a des enseignants qui devaient attendre que les banques parcourent les forêts et les brousses comme nous, ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Nous, on a l'implantation. Nous avons une capillarité exceptionnelle dans ce pays, à nul autre pareil, qui soit avec un SMA tel que celle de Caritas, en fait, qui correspond à la capillarité de l'Église catholique dans ce pays.
C'était la Cléophas Nzengu de Caritas Congo. Jean-Louis Kaimbé, directeur général de la politique monétaire de la Banque centrale. Vous êtes également aussi président du comité de suivi de la paix des fonctionnaires par voie bancaire. 7000 agents fonctionnaires de l'État sont à ce jour payés par voie bancaire, soit un taux de bancarisation de 73%. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation lorsqu'on sait qu'en 2011, on était à environ 2500 agents.
Oui, merci madame pour votre question. Ce qui justifie le fait qu'on est passé de 2500 à près de 7000 ans, agents et fonctionnaires de l'État payés par l'État, c'est en fait l'adhésion des agents et fonctionnaires de l'État à la réforme. C'est une réforme qui a obtenu le soutien de bénéficiaires. Ainsi donc, excepté dans les territoires assez difficiles ou à l'intérieur du pays, partout la réforme a été applaudie, cette réforme du gouvernement. Nous avons commencé à Kinshasa, et après Kinshasa, nous avons rencontré des problèmes avec les banques, mais les problèmes ont été surmontés. Et après les Kinshasa, les chefs de province, les chefs de districts, même dans les districts, même dans les chefs de territoire, nous n'avons pas connu de grands problèmes dans la bancarisation, raison pour laquelle nous avons exécuté notre calendrier tel que prévu. Initialement, nous avons arrêté que nous allions bancariser de manière graduelle, de manière progressive, au regard, bien sûr, des défis nombreux que nous devions relever. Donc, nous avons fait cette évaluation qui a montré que nous sommes à un taux de 73% de bancarisation, et donc c'est un niveau globalement satisfaisant. Et voilà pourquoi nous avons donc compris que là où il y a des problèmes, c'est au niveau de territoires, de certains territoires, comme vous savez, le pays, un pays très vaste, dimension continentale, et avec un déficit en termes d'infrastructure. Donc il y a des endroits, on les reconnaît, qu'il y a, jusque-là, nous avons des problèmes. Les banques ont des problèmes pour y accéder et assurer une paix de proximité dans de bonnes conditions. Mais sinon, la réforme a été applaudie et les taux de satisfaction, les niveaux de satisfaction est au-delà de la moyenne. Et nous avons des témoignages qui viennent de partout, des bénéficiaires eux-mêmes, qui applaudissent la réforme. Les avantages, étant donné que les avantages sont très nombreux, de l'intégralité de la paix, de la régularité de la paix, de la non-accumulation des arriérés, et donc de l'amélioration des qualités utilisées dans la paix. Donc, c'est plusieurs avantages en font que les gens ne peuvent que appuyer la réforme. Et il va de soi que cette réforme, comme vous le savez, a également un impact sur l'inclusion financière. Et donc, toute cette couche de la population, les anciens fonctionnaires de l'État, les policiers, les militaires qui étaient exclus de services bancaires, mais à la faveur de la bancarisation, c'est en fait cette catégorie de la population accède maintenant aux services financiers. Et donc, ils ont un compte, ils ont droit à des avances au salaire, à des crédits à moyen terme, à court à moyen terme. Et donc tous les autres services financiers qui étaient jadis il y a quelque temps réservés à une certaine catégorie de personnes, maintenant les gens qui étaient exclus, les fonctionnaires, peuvent accéder à ces services financiers. Donc la bancarisation a également un impact sur l'inclusion financière. Donc,
alors, voilà, M. Jean-Louis Kaimbé, pour vous, le bilan est positif. C'est vrai que vous avez reconnu qu'il y a des zones difficiles d'accès où il y a des problèmes d'infrastructure, il n'y a pas de route. Mais ces fonctionnaires qui travaillent dans ces zones-là, comment ils font pour toucher leur argent?
Oui, madame. C'est-à-dire que comme c'est un exercice normal. Lorsqu'on met en place des réformes, donc de manière périodique, à mi-parcours, on doit procéder à une évaluation. Donc l'évaluation, c'est en fait consiste à l'établissement d'un bilan pour voir les progrès réalisés, le chemin parcouru, des avancées, s'il y en a, et des difficultés, et voir si les objectifs initialement arrêtés sont à réaliser, à concurrence de combien et à quel rythme. Et lorsqu'on constate qu'il y a des défis, et c'est en fait la situation à laquelle nous sommes arrivés. Il y a des progrès, certes. Son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, au budget, l'a relevé. Il y a des progrès, mais nous avons constaté que nous avons de difficultés. Les difficultés se situent à quel niveau?
Oui, Monsieur Kaimbe.
Au niveau des territoires, à l'intérieur des territoires, des localités, des villes, où il n'y a pas suffisamment d'infrastructures pour accéder donc à des écoles. Alors les banques ont pris l'engagement parce que, comme vous le savez, entre nous sommes
Monsieur
pas nous avons essayé de bancariser ces enseignants qui étaient dans certains villages, certaines villes, et nous avons connu des problèmes. Les banques ont connu des problèmes avec nous, des problèmes n'est rien.
Monsieur Kaimbe,
oui.
Vous ne répondez pas à ma question. Comment font tous ces agents et fonctionnaires?
Maintenant, comment nous les avons payés? Nous avons mis en place une stratégie. Les banques ont travaillé avec, je prends le cas des enseignants parce que c'est surtout dans ce secteur-là que nous avons eu des problèmes. Les banques ont travaillé avec Sécopé. Et le premier travail, c'était mettre en place une cartographie. La cartographie, une localisation géographique des écoles, des sites où l'on devrait organiser la paye. Et ainsi donc, les banques, à la faveur de, disons, lorsqu'elles étaient en possession de cette cartographie, elles ont essayé, dans la mesure du possible, de mettre des sites de paye aux endroits qui avaient été indiqués par ces coupés.
Merci.
Donc, pour le moment, il y a des banques qui payent même dans le territoire accès déficit, tout simplement parce qu'elles ont multiplié le nombre de sites, multiplié le nombre de guichets, et elles payent sous barre de cette cartographie.
Merci, Monsieur Kaimbe. Merci, Monsieur Kaimbe. On vous redonne la parole tout à l'heure. Modeste Rachid Kayombo, porte-parole des syndicats indépendants de l'administration publique. Quelle évaluation faites-vous de la bancarisation à travers le pays? Vous avez suivi Monsieur Kaimbe, qui est président du comité de suivi de l'appel des fonctionnaires par voie bancaire, qui estime que le bilan est positif. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses, des défis à relever.
Bien, nous, en tant que syndicat, nous avons eu à obtenir des choses. Parce que nous avons adhéré depuis le mois de mai 2011 à ce que, d'une manière globale, pour améliorer la gouvernance sociale dans notre pays, que les agents de l'État soient payés par des frais bancaires pour écarter un peu le comportement des comptables de l'État qui faisait ce que nous avons tous reproché. Mais cependant, il faut d'abord commencer par dire si on a fait l'évaluation, sans les partenaires qui ont adhéré, qui ont mobilisé les agents fonctionnaires de l'État. Et ça veut dire qu'on a voulu casser quelque chose. Mais rentrons dans les faits. Nous commençons par dire une chose, qu'effectivement le territoire est vaste, il y a des zones qui sont impénétrables, mais depuis 4 ans, madame, on n'a pas trouvé de solution pour que ces gens accèdent à leur salaire de manière rapide, et sans trop de problèmes. Mais nous constatons, lorsque nous avons, n'est-ce pas, les échos du Haut-Ouélé, nous avons les échos de Inongo et Nyoki, nous avons les échos de Manono, Lubudi et Mopa, par exemple. Mais les enseignants, pas qu'il faut parler d'abord des enseignants, il faut 80 km en moyenne, pour aller accéder à leur salaire, ils payent 15 000 francs congolais, 10 000 francs congolais pour l'aller, 15 000 pour le retour, mais il y a déjà un manque à gagner. Donc, quelque part, il faut reconnaître que la politique n'a pas été bonne. On n'a pas rationalisé ça. Mais prenons maintenant des partenaires, c'est-à-dire les banques. Mais vous savez tous que l'année passée, à Kinshasa, l'association congolaise des banques a déploré que l'État congolais n'a pas payé des frais financiers pour qu'on paye des impôts de l'État. Il y avait des arriérés, au mois de septembre dernier. Mais nous avons failli ne pas avoir le salaire, nous l'avons coûté en retard à Kinshasa. Mais que faut-il dire, n'est-ce pas, à l'intérêt du pays? Donc, nous savons que dans cette opération, c'était un fait unilatéral. Le gouvernement pense qu'il a trouvé des solutions durables, ce que nous ne répondons pas. Nous sommes tout à fait d'accord avec la bancarisation, parce qu'au-delà, n'est-ce pas, du fait que l'agent d'État accède à son salaire à temps, mais il y a aussi la gestion macroéconomique nationale. Nous le savons. Mais pourquoi ne pas associer les partenaires? Maintenant, là, on est en train d'envisager une commission paritaire pour étrangler 10 000 francs congolais pour créer la caisse de retraite en faveur des agents de l'État au mois d'avril. Mais on ne nous a pas associés. C'est un échec. Vous comprenez que, quelque part, il y a certes des problèmes très complexes. Il y a pas seulement les enseignants, mais les infirmiers aussi, les policiers aussi, les agents de l'État qui sont dans les chefferies, secteurs, hein, mais eux aussi sont dans ces problèmes-là.
Et donc vous estimez que c'est un échec, cette réforme?
Non, nous ne pouvons pas être trop pessimistes, madame. Nous disons, on a commencé une bonne opération, mais la satisfaction paraît être un échec complet, notamment dans les milieux ruraux. Parce que aujourd'hui, les agents de l'État, à partir des petits salaires, ils donnent l'argent pour les transports, pour les comptables ou l'argent qui est disponible pour aller toucher leur salaire, donc des commissions. Donc, quelque part, il y a des choses qui ne vont pas. Bon, alors, le problème, c'est pour... On a dit qu'on a maîtrisé les effectifs. À Kinshasa ou dans les grandes agglomérations, nous pouvons dire que c'est bon. La bancarisation a permis, n'est-ce pas, tant soit peu, de savoir qui sont fictifs et qui sont réguliers. Mais à l'intérieur, quel est le rapport qu'on a donné par rapport à l'opération bancarisation? L'opération n'a jamais été rendue publique en termes de résultats, 4 ans après. Alors, comment nous allons agrober tout d'un coup que non, l'opération de bancarisation, c'est un succès, acceptons, c'est la parole de la Bible, et tout va aller. Non! Accepter la critique, nous allons aller de l'avant.
Il y a 4 ans, Monsieur Rachidi, on était à 2500 agents seulement qui étaient payés par la banque. Aujourd'hui, nous sommes à 700 000 agents. Est-ce que ce n'est pas un progrès?
Madame, je voudrais vous dire que jusqu'aujourd'hui, lorsque vous posez la question au gouvernement, ils ne savent même pas à combien s'élèvent les effectifs derrière le projet de l'État. Nous avons des gens sur nouvelles unités, par exemple en Coro. Parce que les enseignants, on les remplace chaque année. On les appelle aujourd'hui nouvelle unité. Ils ne sont pas payés. C'est la vérité. Vous allez à Kongolo, à Nyoutou. Vous allez même à Kabambare. Mais c'est la vérité. Alors, ils sont petits. Nous voulons une bonne gouvernance. Alors, petit à petit, nous devons savoir maîtriser les effectifs, maîtriser les opérations de bancarisation en termes de délai, en termes d'accès aussi à la socialité des salaires. On n'accède pas à la socialité des salaires. C'est ça la vérité.
Est-ce que vous avez des rapports de province? Puisque vous n'êtes pas d'accord avec ce que le gouvernement donne comme chiffre.
Nous disons que l'opération de la bancarisation est une bonne opération. Ça permet comme un pilier pour améliorer la gestion en termes d'accès rapide au salaire. Ça permet à ce qu'on maîtrise les effectifs. Mais ça ne permet pas encore, aujourd'hui en termes de délai, c'est que l'agent de l'État perçoit la totalité de son salaire. Et attends.
Merci.
Et les conséquences. Excusez-moi, je veux vous dire.
Rapidement.
Quand l'enseignant se passe sur 80 km en aller et retour, combien d'heures de travail il perd dans la classe? Et bien, les conséquences pour les élèves, nos enfants. Mais aussi les calculer. Il faut pas voir seulement un.
Merci, monsieur. Merci, monsieur Kayombo Rachidi. Essayez d'éteindre la radio qui est à côté de vous si elle est allumée parce qu'on a un retour qui n'est pas très, très agréable. Michel Somoué, je rappelle que vous êtes analyste économique, ancien directeur général de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises du Congo. Quelle est votre lecture de la bancarisation ou quel bilan vous faites de l'évaluation de la bancarisation à travers le pays?
Madame, d'abord, je suis très gêné que vous parliez de la bancarisation. J'ai l'impression, comme disait Albert Camus, que commettait justement l'erreur qu'il condamnait, de nommer, de mal nommer les choses. Il ne faut pas confondre, je le répète plusieurs fois, la domiciliation de la paie au guichet des banques avec la bancarisation. En économie, le terme bancarisation est consacré, il a sa signification. Et quand je vous entends parler même de 73% de taux de bancarisation, je ne sais pas si vous calculez les conséquences de l'erreur dans laquelle vous induisez les nombreux économistes qui vous entendent et les gens qui ont l'information et qui connaissent les concepts économiques. Je ne sais pas si vous pesez là, l'erreur que vous, dans laquelle vous laissez faire les induire.
Madame, alors essayez de nous éclairer.
Permettez-moi, la bancarisation, c'est le rapport ou l'importance, si vous voulez, de la population qui utilise les services bancaires par rapport à la population totale d'un pays. Pour faire simple, c'est ça qu'on appelle la bancarisation. Le malheur que nous avons dans notre pays est de sortir un concept de son contexte, de sa signification, et on le dénature, on le vide de sa valeur, de sa vocation, de sa mission, de telle sorte qu'à terme, on a des problèmes pour faire le bilan de cette opération antique. Parce que c'est comme si vous demandiez, comme si vous, vous preniez pour un jeune le fait qu'un monsieur n'a simplement pas mangé du matin au soir, alors que son problème c'est qu'il n'avait pas d'argent pour se procurer à manger. Et vous appelez ça un jeûne, alors qu'en religion, un jeûne est une opération sacrée pour la purification, pour la pénitence, pour les gens qui veulent entrer au ciel. Alors quand n'importe qui n'a pas mangé vous dit j'ai jeûné, et vous faites le bilan pour dire nous avons autant de gens qui ont jeûné et il n'a pas de résultat à ses prières, vous voyez un peu c'est ce qu'on fait avec la bancarisation.
Et donc le terme n'est pas approprié.
Le terme n'est pas approprié, c'est vraiment la chose que je dis. Et le terme n'est pas approprié et les conséquences sont graves. Parce que quand nous avons parlé de la bancarisation dans ce pays, nous disions que c'était très important de bancariser l'économie parce qu'il s'agit en fait d'implanter et de diffuser la culture financière dans des objectifs bien précis. Lesquels ? C'est que les banques ont un rôle très important à jouer pour booster la production. Les banques ont un rôle très important pour rentabiliser l'épargne des gens. Pour favoriser une sorte de synergie justement entre l'épargne et l'investissement, il faut une intermédiation financière. Il faut la bancarisation de l'économie. Les banques vont vers les épargnants qui sont les ménages, récupérer les ressources pour les transmettre vers les investisseurs d'entreprises qui en ont besoin, qui en ont des emplois productifs. Les deux cas, les deux catégories d'opérateurs économiques se retrouvent. Les ménages ont à la fois la sécurité et la rémunération de leur épargne. Les entreprises ont des ressources efficaces pour leurs investissements. C'est ça en fait que nous avons toujours recommandé au gouvernement. Pourquoi ? Parce que nous pensons que dans un pays comme le nôtre, où le secteur informel a de l'ampleur énorme, la bancarisation joue encore un rôle capital. Et d'autre part, la même bancarisation permet l'éclosion d'une certaine classe moyenne. La même bancarisation permet d'asseoir véritablement les socles d'une véritable économie nationale qui ne soit pas la proie des intérêts étrangers.
Alors, monsieur,
aujourd'hui, il faut bancariser l'économie congolaise.
Alors, puisque vous n'êtes pas, vous dites que le terme n'est pas approprié, vous avez plutôt parlé de domicilialisation.
C'est une simple domiciliation de la paie au guichet des banques.
Comment vous évaluez cette domicilialisation?
Je parle de la domiciliation, madame. C'est le domicile, domicilier simplement.
Oui, comment vous évaluez ça?
Mais si je peux l'évaluer, ça veut dire la première chose qu'il faut faire, c'est de savoir quel est l'objectif qui était poursuivi par le gouvernement. L'objectif de domiciliation n'a rien à voir avec ce que je viens de décrire pour ceux qui sont en faveur de la croissance, en faveur de l'assainissement, ou si vous voulez, de la rationalisation des dépenses de ménage, en faveur de la réduction du secteur informel et autres. L'objectif que poursuivait le gouvernement, à travers une opération qu'il qualifie erronément de bancarisation, c'était d'assurer le contrôle des effectifs, des fonctionnaires et agents de l'État. L'État voulait maîtriser les effectifs pour peut-être savoir réduire l'impact des dérapages qui proviennent d'une paie désordonnée, des agents fictifs et autres. Ça, on peut reconnaître au gouvernement son droit de rationaliser ses dépenses en assurant un contrôle efficace des agents que l'État paye, donc qui émergent au budget de l'État. C'est tout à fait normal. Mais me dire qu'aujourd'hui, si vous voulez maintenant que je dise par rapport à cette opération, quels sont les résultats auxquels le gouvernement est parvenu, je pense que le gouvernement est mieux placé que vous et moi pour nous donner des résultats auxquels il est parvenu. Mais ce que moi je constate, c'est quoi? C'est que, primo, vous me parlez aujourd'hui de 700 000 agents qui sont payés par la voie bancaire. Mais ces 700 000 agents-là, si ma mémoire est encore fraîche, ce n'est pas encore atteinte de virus. Je me rappelle que M. Moukoko Samba, alors vice-premier ministre, ministre du budget, il y a plus d'une année, fin 2013, si ma mémoire est bonne, nous donnait le même chiffre de 700 000 agents, à peu près 700 000, 200 quelque chose d'agents qui étaient déjà payés par la voie bancaire. C'est ce qu'il avait dit. On lui avait demandé, il avait dit à fin 2013, ils avaient déjà atteint cet effectif-là de 700 000, 200 quelque chose comme ça, agents. J'ai encore ma mémoire très fraîche. Donc ça veut dire que si depuis lors jusqu'à aujourd'hui, on est encore au même chiffre de 700 000, c'est qu'on n'évolue pas.
Merci.
C'est une première chose. La deuxième chose.
Rapidement.
Oui, rapidement. C'est que quel est finalement, à proprement parler, économiquement parlant, financièrement parlant, l'impact qui devait faire si mal au gouvernement pour considérer que sa réforme est une réforme capitale, quand on sait qu'en fin de compte, jusqu'à aujourd'hui, nous recevons des coups de fil qui nous viennent de l'intérieur du pays, des écoles entières qui réclament leur salaire parce que jusqu'à ce jour, elles ne reçoivent rien. On appelle ça des écoles non mécanisées. Il y a des individus, des fonctionnaires qui travaillent, on les appelle si c'est les NU, si c'est quoi, qui ne sont toujours jamais payés jusqu'à aujourd'hui.
Et merci.
Deuxième question.
Je vous redonne la parole, Michel Somoué, juste après ce tour de table. Jean-Louis Kaimbe, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Matadi au Bas-Congo.
Simon Tilulu Mayamona, habitant Matadi dans la province du Bas-Congo. La bancarisation est une bonne chose, mais lorsqu'elle n'est pas planifiée, elle est destructive. C'est le cas de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les enseignants abandonnent pendant 5 jours les élèves pour aller chercher les salaires, car dépassé 5 jours, la banque retire sur votre salaire 5 000 francs dans certaines banques qui payent les enseignants ici à Matadi. Et chaque mois, on nous retranche 3 000 francs comme extrait bancaire. C'est pourquoi nous aimerions demander au gouvernement de la République d'être encore plus étudiant par rapport à ça et voir comment ils peuvent résoudre toutes ces situations.
Monsieur Kaimbe, comment vous répondez à cet auditeur?
Oui, merci madame. D'abord, je veux dire que c'est une opération, contrairement à ce qu'il vient de dire, c'est une opération qui a été planifiée par le gouvernement. Et ensuite, comme j'ai eu à le dire, cette évaluation nous permet de savoir, de connaître effectivement les problèmes. C'est une réforme qui, dans sa mise en œuvre, peut poser des problèmes. Alors,
les gens doivent parcourir de longues distances pour aller chercher leur salaire.
De voir quels sont les problèmes qui se posent et comment résoudre ces problèmes. Donc, nous ne disons pas que cette réforme n'impose aucun problème. Donc, nous ne disons pas que tout est clean, tout est OK, que tout se passe sans heurte, sans accroc. Nous savons bien nous avons noté des progrès, des avancées, d'une part, et d'autre part, nous reconnaissons qu'il y a des choses qui ne sont pas encore comme nous le souhaitons, qui ne se passent pas encore comme nous le souhaitons, et nous travaillons, le gouvernement, toutes les parties prenantes, les gouvernements, les CCOP et les banques travaillent pour que les choses puissent aller comme on le souhaite. S'agissant des frais de retenue, c'est tout à fait normal. De toute façon, c'est tout à fait normal. Je veux d'abord vous dire que c'est une décision qui a été prise au niveau du gouvernement que la gestion des comptes, les frais de gestion des comptes soient pris en charge par les bénéficiaires eux-mêmes. Donc, si ces retenues se rapportent aux frais de gestion des comptes, c'est tout à fait normal. Il a été décidé que tout agent fonctionnaire d'État qui a un salaire supérieur ou égal à 92 000 puis supporter les frais de tenue des comptes qui s'élèvent à 3 480.
Mais est-ce que ces fonctionnaires,
c'est tout à fait normal,
mais
en dehors
Kaimbe,
de ces frais-là, qui
Monsieur
ont été
Kaimbe
autorisés, s'il y a d'autres frais que les banques chrétiennes,
Nous avons besoin que ces informations soient portées à notre connaissance pour corriger.
Monsieur Kayembe, s'il vous plaît, oui. Par rapport aux frais de retenue, est-ce que les agents et fonctionnaires sont au courant que c'est à leur charge? Parce qu'il y a
oui.
certains qui nous ont écrit pour nous dire que c'est le gouvernement qui a signé le contrat avec la banque et non les agents.
Pour assurer une large diffusion, pour que l'information puisse circuler. Donc tout fonctionnaire de l'État sait que au-delà de 92 000, il prend en charge les frais de tenue des comptes. En dehors de ça,
et ceux qui ont moins de cet argent,
la banque vous retient des frais ou au-delà de 3 000, si bien sûr vous devez les supporter, communiquez cela au comité et nous allons intervenir pour vous faire entrer dans vos droits. Il y a eu plusieurs cas où l'erreur de système,
monsieur
où on a procédé à des retenues injustifiées, nous sommes intervenus.
Mais monsieur Kayembe, déjà le salaire.
Ce que nous avons constaté, c'est quoi?
Monsieur Kayembe,
quand ils arrivent auprès des banques, ils demandent plusieurs services. Ils demandent des avances, ils demandent des SMS banking, ils demandent. Et puis, quand les banques, la banque en question, commence à procéder aux retenues pour des services qui ont été sollicités par les intéressés, alors quand on commence à procéder à des retenues, bon, ils s'étonnent pour dire non, je ne savais pas que. Nous avons connu beaucoup de cas, des retenues injustifiées, nous avons corrigé.
Merci.
Mais je vous rassure que ce que les banques retiennent,
alors,
des retenues des comptes, pour la catégorie que j'ai citée.
Merci, M. Kayembe. M. Kayombo, Rachidi, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud de Kivu.
Robert Mohamed de Bukavu, au sud de Kivu. La bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État n'est pas en soi mauvaise, pour autant qu'elle permette à chaque fonctionnaire d'accéder à son véritable salaire tel que prévu au budget et surtout lui ouvre des lignes de crédit pour pouvoir matérialiser ce petit projet. Mais je pense que pour que cette opération de bancarisation soit effective et une réussite dans les milieux reculés, éloignés des villes, il faudrait d'abord et avant tout que toutes les conditions de sécurité soient suffisamment réunies.
Réaction modeste Kayombo.
Bien, je voudrais dire que notre ami de Bukavu, que je suis d'accord avec lui, mais lorsque nous avons souci à l'opération de bancarisation, c'était pour que nous puissions mettre sur pied une politique salariale, sachant que les agents et fonctionnaires de l'État sont payés dans des conditions infrahumaines en République démocratique du Congo. C'est notre but. Donc le gouvernement nous a opposé que je n'ai pas encore maîtrisé l'effectif, donc je ne peux pas augmenter. Même maintenant, la question se pose encore. Comment augmenter les salaires des agents pour l'État? Parce que ce qu'on donne toujours aux agents de l'État ne permettent pas de nouer les débuts du mois. Mais on nous a opposé la bancarisation, nous avons accepté, nous disons nous devons aller de l'avant. Mais lorsqu'on fait l'évaluation, on fait seul. On ne nous associe pas. Donc nous serions peut-être contents que nous ayons les points de vue de notre ami de Bukavu, si la bancarisation est bonne. Mais voici les problèmes qui se posent parce que, au-delà, n'est-ce pas, de la problématique, n'est-ce pas, de la maîtrise des petits et des flux financiers dans le cadre, n'est-ce pas, des crédits de rémunération. Mais il y a l'augmentation qui doit venir. Mais maintenant, dans les prochains mois d'avril ici, déjà le gouvernement, unilatéralement, a déjà décidé de retenir 10 000 francs congolais pour la caisse de retraite. Nous n'avons pas été associés à cela. Mais, ça veut dire quoi? Donc nous devons accepter, même si l'opération peut être bénéfique demain pour les gens, sans concertation, sans évaluation avec nous. C'est ça le problème. Nous disons la gouvernance n'est pas transparente. Nous acceptons la bancarisation, si le terme est approprié, ça ce n'est pas notre débat, mais nous disons, nous devons arriver à maintenir l'effectif, à avoir une politique salariale et à envisager des politiques de protection sociale pour que la chef de l'État qui doit aller à la retraite n'aille pas dans les conditions pour mourir deux jours après.
Donc vous vous plaignez du fait que le gouvernement prend des décisions sans associer les syndicalistes.
Les véritables.
Et ça, vous déplorez.
Les véritables. Parce qu'on a créé une association mafieuse pour faire passer des décisions.
Qui
et
a donc, créé...
là, nous allons protester dans les jours après.
Qui a créé M. Kayombo?
Mais c'est le gouvernement, comme toujours. Mais la bancarisation est une preuve. On dit un comité de suivi. Mais qui sont membres de ce comité de suivi? C'est ça la question. Donc on évalue seul, on dit que c'est tout est bon. Ça s'est fait où la ligne démocratique?
Alors, je veux poser notre question, M. Kayembe. Comment vous réagissez par rapport aux frais des retenues? On a suivi M. Kayembe nous dire que les fonctionnaires sont au courant qu'il y aura, on va retenir un peu d'argent pour les agents qui ont, je crois, plus de 90 000 francs congolais.
Madame, je veux vous dire une chose claire. Hein. Nous connaissons les principes bancaires des institutions. À vivre, n'est-ce pas, des frais. Mais lorsque le gouvernement a pris l'engagement de prendre en charge les frais de tenue des banques, des comptes, excusez-moi, mais il devait y avoir une évaluation pour dire qu'à un moment donné, maintenant nous sommes arrivés au résultat, nous avons accepté ce résultat. Maintenant, vous, syndicat, allez dire aux agents pour l'État que maintenant, chacun doit pouvoir payer les frais de tenue des comptes. Ça ne s'est pas fait. Vous avez les preuves qu'on nous a associés à ça. Donc, on décide quelque part, et on dit, bon, nous appliquons. Non,
merci,
ça, c'est
monsieur,
pas une bonne
merci, monsieur Kayombo. Michel Somoy, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Merci, Mayaga, depuis Kinshasa. J'ai toujours considéré la bancarisation comme étant un long processus qui doit, en amont, commencer, entre autres, par l'installation de structures bancaires fiables afin d'assurer l'effectivité des opérations en aval. L'initiative, elle est bonne car elle vise à faire de la RDC pays émergent à l'horizon 2030, mais hélas, les bases sont mal posées et non solides pour y parvenir. Les banques se plaignent de ce que le gouvernement a du mal à supporter le coût des opérations de paiement des fonctionnaires par voie bancaire qui l'estiment exorbitant. Alors, par quel mécanisme va-t-il les accompagner? Donc, le mieux serait de tout suspendre en vue de reculer pour mieux sauter, car Kinshasa n'est pas la RDC et les fonctionnaires, on les trouve partout à travers le pays, voire même à Ndongele.
Réaction, Michel Somoy. Faut-il que...
Monsieur est bien inspiré, il est très bien inspiré. J'ai l'impression qu'il parle en fait de la vraie bancarisation, non pas de cette opération trompe l'œil que le gouvernement a mis au devant de ses réformes économiques. Parce que, en fait, Madame Kelly, ce que le gouvernement appelle la bancarisation n'est qu'une fuite en avant devant la gravité des problèmes économiques qui appellent des mesures de réformes profondes. Ce sont ces mesures qui ne viennent pas. Alors, pour ne pas laisser le vide, on nous embrigue dans une histoire de bancarisation. Mais ce n'est même pas une réforme. Soyons sérieux. Parce que nous savons que, dans ce pays, nous avons, les gens ont toujours, ceux qui l'ont voulu, ont toujours été payés par la voie bancaire, de tout le temps. Ceux qui ont voulu être payés par la voie bancaire l'ont été, depuis des années, depuis des décennies. Ça fonctionnait comme ça. Donc, faire de cela une réforme, je trouve pas ça très, très correct. Alors, mais par contre...
Mais le nombre n'était pas si important qu'aujourd'hui, M. Somoy.
Pardon?
Le nombre n'était pas si important qu'aujourd'hui.
Non, madame, c'est parce que vous n'avez pas l'histoire de ce pays. La mémoire du Congolais est trop courte. On devrait savoir qu'avant l'année 1990-91, avant qu'on parle de la crise de liquidité dans ce pays, par la faute de la Banque centrale incapable de fournir à l'économie nationale les moyens de paiement dont elle a besoin, les gens avaient beaucoup de bonnes relations avec les banques. C'est lorsque, à un moment donné, les gens se présentaient devant les guichets bancaires pour toucher leurs revenus, les banques les renvoyaient en disant qu'il n'y avait pas de liquidité, c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à prendre des licences vis-à-vis des banques. Ça, c'est clair, c'est connu. Mais ce que monsieur dit, c'est quoi? C'est qu'il faut donner à cette économie, à ce pays, des banques qui répondent aux besoins de l'économie nationale. Quand on parle de la bancarisation, on ne voit pas que le nombre des comptes des gens qui les ont ouverts auprès des banques par rapport aux pressions sociales, il faut aussi voir l'ensemble des services que les banques offrent à l'économie. Il faut aussi voir le nombre de banques qu'il y a par rapport à la population de ce pays. Nous sommes un pays, parmi les rares pays du monde, à avoir un ratio de 4 500 000 personnes pour une banque. 4 500 000 personnes. C'est-à-dire 4-5 pays réunis pour n'avoir qu'une seule banque. Alors que vous avez des petits pays de 500 000 habitants comme le Luxembourg qui peuvent vous compter plus de 100 banques. Et nous en avons au total comme ça 18 ou 20 pour près de 80 millions d'habitants. C'est ça dont on parle, la bancarisation. Il faut d'abord créer les banques, asseoir l'infrastructure financière, asseoir l'industrie financière dans le pays avant d'implanter la culture financière. C'est important de le faire. Sinon, on fait quoi? On déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul.
Et comment l'État peut faire pour... comment l'État peut faire pour réussir cette opération, puisque l'opération est déjà en cours. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la réussite de cette opération?
Moi, cette opération qui se passe, je ne vois vraiment pas en quoi elle est nouvelle, en quoi elle est extraordinaire. Moi, je voudrais que vous me posiez la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour donner à ce pays qui s'appelle le Congo une économie capable de créer des revenus pour qu'il y ait des salaires à payer aux fonctionnaires de l'État. Il y a des salaires et non pas des pourboires. À ce moment-là, nous verrons, est-ce qu'il y a des tournements des salaires ou pas? Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure pour sanctionner la corruption, sanctionner le vol, le détournement des fonds? Mais où sont passées les économies qui ont été réalisées par l'opération en question? Moi, je ne voudrais pas appeler bancarisation, parce que c'est péché contre ma science. Où sont passées les économies? Parce qu'ils disent qu'ils ont fait des économies. Ces économies, elles sont où? Quel en est l'impact dans l'économie nationale aujourd'hui? L'effectif qu'on a éliminé, mais les coûts que l'État a supportés par rapport à ces économies, qu'est-ce que le gouvernement appelle ce coût-là? Il en appelle que ce n'est pas de la rationalité ou de l'irrationalité. Aujourd'hui, on se ravise pour dire que les fonctionnaires eux-mêmes prennent en charge les frais de tenue de compte. D'accord.
Alors, en conclusion.
En conclusion, moi, je crois qu'on n'est pas sorti de l'aubaine, parce que jusqu'à aujourd'hui, les fonctionnaires continuent à souffrir de la même insuffisance de leur salaire, ils continuent à souffrir de la même retenue de leur salaire, parce que c'est ce qu'on voulait, on reprochait aux uns pour dire on a ravi l'argent, on vole, etc. Mais ils continuent à subir. Même ceux qui subissaient du côté des généraux, ils sont du côté des banques.
Merci Michel Nsomo et Jean-Louis KMB. Comment réussir cette opération que le gouvernement a commencé? Le syndicat se plaint du fait que les mesures sont prises sans associer les syndicalistes.
Non, madame, je voudrais rectifier une chose, c'est que le gouvernement prend toujours soin d'associer les syndicalistes. La preuve, c'est que lors de l'atelier, nous avons invité plus de une dizaine de syndicats. Et ils étaient présents, ils ont pris la parole.
Les syndicats créés par le gouvernement?
Oui, le gouvernement a invité les syndicats à l'atelier. Nous avions la CAT, il y en a beaucoup, je ne peux pas les citer, mais les syndicalistes étaient là. Et lorsque d'ailleurs nous avons abordé la question de la poursuite de cette mesure qui consiste à un fonctionnaire de prendre en charge les frais de tenue bancaire, et il y a d'ailleurs la proposition est venue d'un syndicat qui nous a dit que nous pensons que ce n'était pas le moment de discuter cette question et qu'ils ont proposé c'est que nous puissions nous retrouver dans un autre cadre et les syndicalistes et les gouvernements et les comités que toutes les parties prenantes pour discuter à fond, voir comment nous devions poursuivre cette mesure.
Merci Monsieur Jean-Louis KMB, Modeste Kayumbo, un mot en guise de conclusion.
Bien, ce que nous disons est que nous sommes en pleine démocratie, madame. Nous croyons que ce n'est pas le moment de manipuler certaines organisations pour dire que nous avons associé les syndicats. Ce discours, nous l'avons entendu à la Banque mondiale, au PNUD, au PIC. Mais les choses ne semblent pas avancer. Nous sommes aujourd'hui à 2-3 dollars de SMIC dans un pays dont on dit que nous sommes dans la croissance qui doit atteindre 2 chiffres en 2015. Mais les choses ne semblent pas marcher. Quelque part, il y a de la magouille. Nous disons clairement qu'il y a de la magouille.
Merci.
Mais pourquoi ne pas affronter, pourquoi n'a pas affronté des problèmes réels? Pas les problèmes sont réels, ils sont reconnus.
Merci, merci Monsieur Kayombo. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Alain Rung, Berry, Franklin Louchaka, sous la supervision de Ben Kababamba, qui m'ont aidé à préparer et réaliser pour vous cette émission. La technique était assurée par Sylvain Matundu. Au micro, Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. 28 de programmes sur la fréquence de la paix.